Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 9 mai l'an 2000 à Saint-Jodard.
Je croyais que la métaphysique serait arrêtée au dernier cours. Et on me dit maintenant, et c'est bien qu'on continue quand même la métaphysique et l'éthique, alors une fois sur deux. Aujourd'hui, la métaphysique passe avant l'éthique. Et je présume que demain, on fera l'éthique. On a vu la dernière fois, c'est pour aider de comprendre l'importance de la saisie de la substance. La substance, au plan métaphysique, le principe selon la cause formelle de ce qui est, domine toute la métaphysique. Je crois que je suis un peu dur en disant ça, mais tant qu'on n'a pas saisi la substance, on n'est pas entré en métaphysique. Et ce passage de l'expérience au principe selon la cause formelle, c'est l'entrée en métaphysique. Et c'est la découverte de la substance. Donc, on doit tout le temps y revenir. Parce que, en métaphysique, on y entre toujours de plus en plus. C'est vrai. Je ne peux jamais dire que j'ai saisi parfaitement la substance. Je peux dire que j'ai saisi d'une façon telle que lorsqu'on me dit qu'on a saisi la substance de telle manière et que c'est pas vrai, on peut dire « c'est pas la substance ». Négativement, on peut être farouche et féroce, comme pour la connaissance de Dieu. Pour la connaissance de Dieu, on est très, très net pour dire tout ce qui n'est pas Dieu. Et pour dire ce qu'est Dieu, on est comme un enfant. Ça, oui. Vous voyez, c'est très curieux, c'est que les réalités qui sont supérieures à moi, supérieures à mon intelligence, je m'approche de plus en plus de ces réalités, je peux négativement montrer tout ce qui n'est pas ça. Et je saisis ce principe comme principe, et je le saisis analogiquement. La ratio substantiée, donc cette raison que comme mon appréhension saisit, je la saisis analogiquement. Je ne peux pas définir ce que c'est qu'un principe et définir ce que c'est que la substance. Je ne peux pas. C'est vraiment le cœur de l'intelligence. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intime dans l'intelligence. Et ce qui, d'une certaine manière, est le plus lumineux. Mais je n'arrive pas à préciser parfaitement ce qu'est la substance. Et c'est pour ça que ça m'aide de regarder ce qui, analogiquement, est la substance par rapport au devenir, par rapport à l'homme, par rapport au vivant, ce qui est la substance, ce qui joue le rôle de noyau central en éthique, en art, en politique. C'est voyez, c'est un peu la clé de voûte, si vous voulez. Tout va se structurer autour de la substance. Et même la recherche de l'acte présuppose la découverte de la substance. Parce que je ne peux pas saisir vraiment ce que c'est que la finalité si je n'ai pas saisi la détermination qui me conduit à cette finalité. C'est pour vous montrer que la saisie de la substance est très importante. Ce serait très intéressant, si on avait le temps, vers l'histoire de la philosophie européenne en prenant la substance. Oui. En prenant la substance pour voir dans quelle mesure toutes ces philosophies ont saisi la substance. Parce que c'est toujours utile, quand on voit un système philosophique, de voir la comparaison avec notre philosophie. La vérité est unique. Il faut avoir un esprit très souple pour tous les moyens, toutes les voies d'accès. Ça, il faut être très souple. Les voies d'accès sont différentes. Mais ne disons pas, ne condamnons pas une philosophie parce qu'elle touche des principes. C'est la condamnation de la philosophie elle-même. Oui. Quelqu'un qui dit « je n'aime pas ce philosophe parce qu'il n'y a qu'une philosophie », mais pour la vérité, y a-t-il plusieurs vérités ? Posez-vous vous-même la question. Hein ? Y a-t-il plusieurs dieux ? Quand vous dites qu'il n'y a qu'un seul dieu, vous êtes étroit d'esprit. Ah non, il y en a beaucoup. L'Olympe, il était très intelligent. Il voyait de multiples dieux. Pour la largeur de l'esprit. Je dis ça parce que c'est des réalités qu'on rencontre aujourd'hui. Et on tombe dans le panneau. Et on n'a pas le droit de tomber dans le panneau. Soyons quand même intelligents. La diversité, l'extension, oui, elle est multiple, par définition. Mais l'intensité, ce qu'est la chose, est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quand je dis un seul Dieu, est-ce que je rétrécis la divinité ? Il faut vous poser la question. Si vous affirmez le monothéisme, il faut savoir que ce n'est pas rétrécir la divinité. Affirmer le monothéisme, c'est au contraire dire une vérité, c'est cette découverte de Dieu. Donc, je peux affirmer avec le Saint-Père comme compagnon qu'une philosophie qui est incapable de découvrir Dieu unique, c'est une philosophie qui ne sera jamais sagesse. Puisque la sagesse consiste à saisir l'unique, le sommet. Et le sommet, il est unique. Le vrai sommet. Alors, refuser dans une pensée philosophique cette orientation vers l'unique Dieu, la refuser parce que on parle de l'unique Dieu. Il faudrait dire, j'atteins de multiples dieux et je respecte tous ceux qui atteignent de multiples dieux. Non ? Oui, différence entre l'extension et l'intensité. La qualité de pénétration de l'intelligence dans, vers la vérité unique. La réalité suprême est unique. Donc, la vérité suprême est unique. Dès que je ne suis plus en face de cette réalité unique et que je vois les autres réalités multiples, alors je dis oui, elles sont multiples. Les causes secondes sont multiples. Ce n'est pas le principe. Le principe est un. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder la substance, principe propre de ce qui est en tant qu'être au niveau de la cause formelle. Vous voyez, il y a un seul principe et il y a quatre causes. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente, la cause finale. Rechercher les causes propres, c'est analyser. L'analyse est multiple. Mais l'analyse est faite pour découvrir ce qu'il y a d'ultime. Je ne m'arrête pas à l'analyse. L'analyse très importante. Mais je sais que c'est l'analyse. Et dans l'analyse, je peux dire, mon voisin est le plus qualifié que moi dans la recherche de la cause efficiente. Il sait mieux que moi ce que c'est que la causalité efficiente. Moi, j'ai un amour particulier pour la cause formelle. Et puis le troisième dit, moi je suis dans la cause matérielle. Et c'est vrai ça. Il y a des intelligences qui sont plus en connaturalité avec la cause matérielle. Va donc, toi qui es en connaturalité avec la cause matérielle, tu vois tout sous la cause matérielle. Mais tu ne peux rien dire de Dieu. Ah. Tu es peut-être très fort dans la cause matérielle, tu ne peux rien dire de Dieu. Tu es aveugle pour ce qui est spirituel. Et c'est vrai, les spécialistes de la cause matérielle, ils sont aveugles pour la causalité formelle. Les spécialistes de la cause formelle sont quelquefois aveugles pour la cause matérielle. Regardez Platon. C'est pour ça que c'est si important de connaître un peu Platon. Il faut, autant que possible, chaque année, lire un dialogue. C'est facile, c'est reposant, c'est intéressant. Parce que Platon, c'est le génie de la cause formelle. Mais il est faux parce qu'il ne voit pas la cause matérielle. La cause mortelle, c'est la cause errante. C'est magnifique du reste, la cause errante. Et c'est vrai, petit copain de Platon, hein, avant Platon, ils étaient dans la cause errante. C'est pour ça que Platon va avec joie pour, en exaltant la cause formelle. Mais on sent bien quand Aristote auprès de lui joue le rôle d'un disciple auprès du maître. Il rappelle des choses que Platon ignorait. Et à la fin de sa vie, Platon a des nuances qu'il n'avait pas au début. Et si on étudiait Platon avec un sens grec, parce que les Grecs avaient très fort le sens que le plus jeune apporte un vin nouveau à son maître. Vous savez, avoir comme disciple Aristote, c'est magnifique, mais c'est lourd. Parce que il devait avoir toujours l'arc tendu. Et dès que Platon disait une bêtise, la flèche. Et immédiatement. Alors à ce moment-là, Platon intelligent était bien obligé de... C'est vrai. Et ce serait très intéressant. À Fribourg, j'avais voulu lancer un de mes étudiants qui était particulièrement brillant pour faire une thèse là-dessus. De l'influence d'Aristote sur Platon. De l'influence du jeune Aristote sur Platon. De voir comment la cause errante n'était plus une cause errante. Elle avait son statut. C'est très curieux, ça. Découvrir ce qu'est la cause matérielle, c'est découvrir le statut particulier, c'est une cause. Donc elle est principe. Elle a sa détermination. Quelle est la détermination de la cause matérielle? C'est pas commode à voir, hein? Le conditionnement, il dépend toujours de la cause matérielle. Mais c'est un conditionnement. C'est pas ce qui détermine dans la vie, mais c'est un conditionnement qui peut avoir d'immenses conséquences et des conséquences agrandissantes. Mais c'est dehors du conditionnement. La cause matérielle, elle accapare. La cause matérielle prend toujours pour soi. Elle attire. Alors, on a envie de s'en libérer. Et pour que Platon existe, il fallait qu'il se libère de la cause matérielle en la considérant comme la cause errante. Le corps est tombeau de l'âme, hein. La cause errante devient le tombeau. Elle n'est pas errante du tout, hein. C'est le tombeau. C'est extraordinaire. Et pour montrer ce qu'est la résurrection, la pierre roulante. La pierre était à cause matérielle du tombeau, fermé. Est supprimée pour la liberté de l'esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Le spécialiste de la cause formelle, il évacue la matière. Et il est évident que notre monde, avec le marxisme, a essayé d'exalter la cause matérielle. La psychologie exalte la cause matérielle. C'est toujours ça, le conditionnement. On en fait des principes déterminants. C'est très curieux. Et c'est ça qui est très intéressant. Il ne faut pas oublier ce que fait Aristote au début de la métaphysique. Au début de la métaphysique, Aristote regarde tous les philosophes avant lui. Il n'y en a pas trop, il peut le faire. Nous, si nous regardions tous les philosophes avant nous, ça passerait toute notre année. Hein. Et au bout d'un certain temps, on ne saurait pas si on existe encore, si c'est la peine d'en ajouter un plus. Il regarde tous les philosophes avant lui sous l'angle des causalités. Ce philosophe a-t-il découvert la causalité formelle ? Ce philosophe a-t-il découvert la cause efficiente ? Vous voyez, si je faisais l'histoire des philosophes européens, je les épinglerais par les causalités. Et je serais très étonné qu'il y a des siècles, et ordinairement plusieurs siècles, qui sont plus pour telle causalité. Ce sont les différentes modes philosophiques. Il y a la mode de la causalité formelle, il y a la mode de la causalité matérielle, la mode de l'efficience, la mode de la finalité. C'est très curieux ça. Et ce qui fait l'harmonie d'une intelligence bien faite, c'est de voir le jeu, les interactions entre cause formelle, cause matérielle, cause efficiente, cause finale, cause matérielle, cause formelle, cause efficiente. De voir ces interactions, c'est-à-dire ne pas être le spécialiste de la cause matérielle, parce qu'on ferait de grosses boulettes, ne pas être le spécialiste de la cause formelle, ne pas être le spécialiste de la cause efficiente, mais c'est de voir, au point de vue philosophique, le jeu de ces diverses causalités, le rapport de ces diverses causalités. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, il faut reconnaître qu'on a quand même une affection spéciale pour une des causalités, c'est sûr. On a le droit. On a le droit de dire que la causalité formelle, oh, ce qu'elle est importante. La substance, saisir la substance. La causalité finale, oh, capitale. L'amour. La causalité efficiente, parce que s'il n'y a pas de causalité efficiente, il n'y a rien. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'initiative. Vous voyez ces gens, ces philosophes, ces pères, philosophes, qui sont tous les jours avec une nouvelle initiative. La nouvelle initiative fait dégringoler l'ancienne. Et à chaque fois, on reprend tout. Alors, au bout d'un certain temps, c'est fatigant. Causalité efficiente qui prend tout. La causalité efficiente chez le vivant, c'est l'initiative. Quelque chose de nouveau. Ah, j'ai découvert ça pendant la nuit. J'ai un rêve extraordinaire qui m'a fait comprendre ce que c'est. Puis, arrivé à un âge plus grand, oh, c'est la causalité finale. Et ainsi de suite. voyez. Il faut arriver à connaître la vie de l'intelligence. Et on connaît la vie de l'intelligence par ses désirs, par ses interrogations. L'intelligence interroge en disant « Qui est-il ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ?» Le « qui est-il » de la finalité, le « qui est-il » de la forme, le « qui est-il » de la fin, le « qui est-il » de la finalité. Qu'est-ce que c'est ? Cette réalité que je vois, qu'est-ce qu'elle est ? Dans sa détermination, qu'est-ce qu'elle est dans sa matière. C'est vrai, professeur Durès, automatiquement, quand vous voulez connaître, c'est quelque chose de très grand d'avoir découvert les quatre causalités, ou les cinq causalités, puisque on mettra pour la cause formelle la causalité exemplaire. Alors il y aura deux causalités. Tellement la causalité formelle est importante à cause de Platon. Et Platon a découvert la cause exemplaire qui a tout pris. Donc c'est la causalité formelle qui s'est dédoublée en causalité immanente et transcendante. Alors ça fait l'exemplaire et puis la causalité formelle. Et chaque grand philosophe presque dédouble la causalité. Et ce serait intéressant à voir ça. Comment, dans la phénoménologie, on a Hegel de droite, Hegel de gauche. Hegel qui commande la dialectique matérialiste et Hegel qui commande la dialectique spirituelle formelle. Et à l'intérieur de ce système si un, vous avez une dualité. Et vous avez beaucoup de philosophies où il y a la dualité, il n'y a pas les quatre. La richesse de la philosophie aristotélicienne, c'est qu'il y a les quatre, ou les cinq même. Alors ça, c'est une philosophie qui n'est pas du tout univoque, qui est analogique, et qui se développe selon ces cinq pistes. Ce sont des pistes par lequel je me développe intellectuellement. Alors, nous avons le gros problème quand on découvre la substance, ce qu'elle est, le qui est-il de ce principe au niveau de la cause formelle. On voit que notre âme, c'est notre substance. Oui, je peux le dire. Je ne peux pas dire que la substance est âme. Si ce n'est, analogiquement. Et pour moi, quelle est la substance la plus parfaite ? C'est intéressant de me poser la question. Quelle est la substance la plus parfaite ? C'est mon âme. Dieu, c'est autre chose. Il est substance totale qui prend tout. Mais la substance la plus parfaite que je peux saisir en moi, chez mon voisin, chez ma voisine, c'est sa substance, c'est son âme. Alors, je fais ce rapprochement et c'est très éclairant. Ça m'aide à comprendre la substance, à avoir un réalisme plus grand. Mon âme. Je saisis plus facilement mon âme que la substance. Normalement. Mon âme, je la saisis comme ma substance par rapport à la vie. Mon âme est source de vie, principe de vie. Elle est substance au niveau vital, au niveau de l'être. Mon âme est une substance créée. Et donc, il y a une limite à son autonomie. Substance créée. Elle reste bien principe, mais un principe second, relatif à un autre principe. Voyez, j'ai dans mon âme quelque chose par où je suis autonome. Je suis principe, c'est-à-dire premier. C'est moi qui dis ça. J'en suis l'auteur, j'en suis le responsable de mon acte. Si mon âme n'était pas source de ma vie, je n'aurai pas de responsabilité. Est-ce qu'une vache est responsable de brouter de l'herbe? Non. Elle le fait instinctivement. Elle n'est pas responsable. Vous n'avez jamais eu envie de dire que la vache était responsable de prendre de l'herbe. C'est du reste pour ça qu'elle n'en prend jamais trop. Rarement qu'elle est malade. Elle est folle. L'instinct est déterminé. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de responsabilité. Tandis que mon âme est responsable. Et alors, quand je saisis ce qu'est mon âme comme substance de mon être, je vois que cette substance de mon être, elle est limitée. J'existe d'une manière déterminée. Je ne peux pas exister comme un singe. Je ne peux pas exister comme un bœuf. Je ne peux pas exister comme un petit chat. Je ne peux pas exister comme un petit chien. Je suis déterminé dans mon être. Et j'essaie de découvrir cette détermination de mon âme. Et je vois que dans mon âme, il y a cette chose très curieuse, très étonnante, que mon âme est au-dessus de la cause matérielle. Elle émerge. Je suis capable de connaître. Je suis capable d'aimer. Mais aussi, mon âme détermine mon corps. C'est pour ça que les néoplatoniciens aiment de dire que l'âme, c'est l'horizon entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est très juste. Mon âme est l'horizon. Mon âme commande le monde matériel. Mon âme s'ouvre au monde spirituel. Je suis ouvert au monde spirituel. Et je commande le monde matériel. Et c'est vrai, mon âme s'ouvre au monde spirituel et par là, elle acquiert l'autorité. Mon âme commande au monde physique et par là, elle a un pouvoir de commander, d'orienter. De déterminer. Mon âme a une richesse telle qu'elle est en connaturalité avec le monde matériel, par mon corps. Par mon corps, je suis en connaturalité avec ce monde physique. Je le touche. Et si ce monde physique est chaud, je deviens chaud. Si ce monde physique est glacial, je deviens glacial. La connaturalité. Et mon âme, vis-à-vis du monde spirituel, elle est ouverte à ce monde spirituel. Ce monde spirituel ne lui est pas étranger. Il y a là un problème philosophique extrêmement intéressant pour déterminer ce qu'est l'âme humaine, pour voir ce qu'est l'âme humaine. Et ceci est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, dans notre monde ouvert très profondément à la cause matérielle, notre univers à oublier l'âme, à la négliger, à ne pas la regarder. Merleau-Ponty nie l'âme. Je suis un être sensible. Ça, il ne me nie pas. Imaginatif. C'est l'imagination. Quand je définis quelque chose, quand j'atteins l'universel, c'est par l'imagination. En réalité, je reste toujours dans le monde symbolique et je ne le quitte pas. On est dans un univers, dans un monde, dans une culture qui a beaucoup de peine à comprendre l'intelligence. On est devant un monde qui noie l'intelligence, ramène l'intelligence à l'imaginaire. Aristote avait déjà dit que le plus grand danger, c'est de confondre la fantasia, l'imaginaire, et l'intelligence. Il avait prédit ça, que le monde matériel est connaturel à nous, nous le portons avec nous. Vous portez toujours avec vous ce monde matériel. Et il a beaucoup plus d'extension que le monde spirituel. Vous ne pouvez pas nier que vous avez un corps. Si vous n'êtes pas trop malade, vous ne pouvez pas le nier. Et la sensibilité, vous la reconnaissez. Tandis que l'intelligence, vous pouvez la nier. Parce qu'elle est très fragile en vous. Vous êtes intelligent, mais il faut beaucoup d'efforts pour pour que votre intelligence domine, pour que votre intelligence s'éveille. Il faut beaucoup d'efforts. Tandis qu'il n'y a aucun effort quand vous vous réveillez à toucher le lit où vous êtes enfoncé dans des rêves. Et on a toujours envie de continuer nos rêves, des rêves éveillés. C'est curieux. L'homme est vraiment à la frontière du spirituel et au sommet du monde matériel. Alors, il est au sommet du monde matériel et dans le monde matériel, il domine. Et il est au terme du monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il est toujours le petit dernier. Et donc, à ses propres yeux, il est presque plus chez lui, dans la sensibilité. Dans la sensibilité, vous dominez. Dans le point de vue spirituel, vous ne dominez jamais. Vous êtes en attente. Vous êtes en ouverture du désir. Et vous ne dominez pas. Alors, il y a un problème que nous verrons, parce qu'il est très important, c'est de voir comment l'âme domine la matière, comment l'âme aspire au spirituel. Vous voyez, après la substance, je regarde la substance qui m'est le plus connaturelle.